écoutez À Propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir.
Tous les jours, c'est l'expertise de notre rédaction dans vos oreilles.
Un Belge sur deux achète au moins une fois par an des produits de grande consommation dans les magasins discount. On se penche tout de suite sur les raisons de ce succès retentissant.
Mais d'abord, du changement à la tête de l'Union belge de football, Pascale Van Damme va devenir la première présidente de l'institution.
Nous sommes le mardi 23 mai, je m'appelle Sandrine Puissant.
Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité comme vous l'entendez.
Pascale Van Damme va devenir la première femme présidente de l'Union belge de football en remplacement de Paul Van den Bulk.
Ce dernier sera resté en poste moins d'un an. Alors que s'est-il passé? Peut-on, doit-on parler de révolution à la tête de l'instance qui chapeaute le football dans notre pays? Frédéric Larsimon est le chef foot du soir. C'est lui qui a sorti l'info sur la nomination de Pascale Van Damme. Il nous explique. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
En un mot, c'est quoi l'Union belge de football? C'est quoi leur rôle en fait?
Ils seront censés veiller à l'intérêt du plus grand nombre. Mais ces derniers mois, on a un peu l'impression que c'est un peu le contraire, qu'ils ont veillé à l'intérêt du sommet de la pyramide et surtout du leur. Donc on était dans les querelles intestines à tout bout de champ.
Pour comprendre bien la pièce qui est en train de se jouer devant nous, il faut remonter au printemps 2021, en fait au moment où le conseil d'administration de l'Union belge est renouvelé, on change les meubles.
C'est-à-dire qu'on a, pour la première fois, il y a eu deux administrateurs indépendants, Pascale Van Damme et Paul Van den Bulk. L'idée sous-jacente derrière était d'avoir le premier président issu de la diversité. Donc ça, on l'avait annoncé très très vite dans nos colonnes. Ce qui devait arriver n'est pas arrivé pour une question de procédure. On s'était rendu compte que les administrateurs indépendants ne pouvaient pas être éligibles avant un an. Donc c'est pour ça que Robert Huggens a fait un intérim de quelques mois, puis Paul Van den Bulk a été élu comme président, premier président issu de la diversité dans une fédération de football en Europe, ce qui était déjà une très bonne chose. Et alors là, il a commencé à avoir tout de suite un gros conflit entre le CEO, c'est-à-dire le directeur de l'opérationnel, et le président, qu'on a voulu être un président protocolaire et qui n'a pas été du tout un président protocolaire.
Au moment de la nomination de Paul Van den Bulk, c'est, vous l'avez dit, c'était déjà une petite révolution, parce que issu d'une minorité et parce que pas issu du sérail des clubs de football belges habituels.
Exactement, c'était la grosse nouveauté, mais c'était un désir d'ouverture. Alors, dans ces cas-là, soit on a un responsable, un directeur, un président, ce que vous voulez, un CEO, qui est complètement indépendant, mais qui ne connaît pas suffisamment les rouages et le petit poteau-poteau
la cuisine
du
interne.
Foot, voilà, le grand marécage, ou alors on a un président qui est issu de ce marécage et on accuse les poissons de se bouffer entre eux.
Qu'est-ce qui n'a pas marché avec Paul Van den Bulk?
Déjà, ce qui a marché, c'est qu'il a mis le nez dans des dossiers où, effectivement, le comité de direction avait un peu tendance à trôner tout seul et à travailler tout seul. Je rappelle que dans n'importe quelle ASBL ou que n'importe quelle société, il y a un comité de direction et puis il y a un conseil d'administration auquel ce comité de direction doit rendre des comptes. On était clairement, je ne vais pas dire à l'inverse, on n'avait pas fait la grande bascule, mais en tout cas, on était au-delà du point d'équilibre. Ça, c'est certain. Alors finalement, quand vous avez un juriste qui est déterminé à faire triompher le droit quoi qu'il arrive, forcément, par rapport à certaines, je ne vais pas dire pratiques, parce que certaines manières de travailler, ça posait peut-être un problème.
Au final, c'est ça qui lui coûte sa place à Paul Van den Bulk, c'est d'avoir eu envie de nettoyer l'Union belge?
Alors, je ne sais pas s'il y avait besoin d'un nettoyage, mais en tout cas, il a été très rigoriste, très formaliste, très à cheval sur beaucoup de choses. Je pense que le fameux épisode du contrat de Peter Bosart, qui avant le départ des Diables en Suède en mars avait coûté la place de CEO, elle est quand même très significative. Quand on a un avenant avec une somme quand même de 100 000 euros en bonus qui est signé dans un coin par deux administrateurs, il y a quand même un problème. Le conseil d'administration doit être au courant. Et là, Paul Van den Bulk a rué dans les brancards et ça a eu une onde de choc sur forcément tous les directeurs qui se sont mis ensemble, qui ont aboyé, et puis à un moment donné, effectivement, la Pro League avait des intérêts aussi à demander un audit de la fédération. Le comité de direction s'est senti attaqué et voilà, on rentre dans une guéguerre complètement folle.
Là, vous l'avez annoncé dans les colonnes du soir, c'est donc Pascale Van Damme qui va devenir la première femme présidente de l'Union belge. C'est quelqu'un qui fait l'unanimité au sein des instances dirigeantes aujourd'hui.
Alors, après 2 ans en poste comme administratrice, je peux vous dire que c'est quelqu'un qui a fait l'unanimité. Elle était très discrète, mais visiblement elle a une très bonne connaissance des dossiers. C'est quand même pas n'importe qui. Je crois qu'elle est vice-présidente de la plus grosse filiale de Dell Technology. Et oui, moi, les échos que j'en ai eus, je ne l'ai jamais eu à l'interview parce que c'est quelqu'un de très discrète, mais les échos que j'en ai eus sont très très positifs. Alors évidemment, on ne va pas se leurrer. On est un peu dans l'air du temps. Après le premier président belgo-congolais, on a la première femme. Donc c'était un petit peu, j'allais dire, cousu de fil blanc, mais elle ne le doit pas au fait qu'elle est une femme. Elle le doit au fait qu'elle a de la compétence. Et en tout cas, elle a démontré qu'elle avait de la compétence. Maintenant, elle va devoir montrer sa capacité à gérer une fédération de foot qui existe depuis 128 ans. Vous savez comme moi que le foot est un milieu extrêmement fermé, où on a plutôt tendance à s'arranger entre eux, qu'il y a des luttes d'influence. On a déjà le problème qu'il y a une fédération et une Pro League, une ligue professionnelle. Donc la Pro League a 4 administrateurs dans un conseil d'administration de 10 personnes, ça représente quand même 40% des voix. C'est pas rien, ça pèse lourd. On fait pas ce qu'on veut avec des clubs comme Bruges, l'Antwerp maintenant, l'Union Saint-Gilloise va commencer à montrer le bout du nez et à rentrer dans le G5 au foot, si les choses continuent. Il y a toujours l'éternel poids d'Anderlecht qui reste Anderlecht. Le Standard, il faut pas l'oublier, même si le Standard est moins puissant qu'avant, tout ça va peser. Donc elle va devoir apprendre à composer plutôt que diriger d'une main de fer.
J'allais poser la question, vous y avez un petit peu répondu. Les principaux défis de la nouvelle présidente, ce sera ça, réussir à surnager dans ce milieu fait de luttes incestines et parfois un peu incestueuses.
Oui, je pense que c'est vraiment le plus gros défi. Alors, il reste toujours le nerf de la guerre, c'est les finances. Je rappelle que les Diables ont été éliminés au premier tour de la Coupe du Monde et que forcément, les primes de la FIFA n'ont pas été celles qui étaient escomptées. L'Union belge a engagé d'énormes montant d'abord dans l'installation de ces locaux, ce qui était indispensable. Je crois que le choix là est absolument indiscutable. Et puis après ça, mais à consacrer beaucoup d'argent, à peu près 1 million par an dans l'arbitrage, il n'y a absolument aucun résultat. Le VAR reste toujours très fragile. On n'a toujours pas d'arbitre bien placé à l'échelon européen ou mondial. Je crois qu'un arbitre belge pour une prochaine Coupe du Monde ou un prochain Euro, ma barbe sera encore un peu plus blanche. Et voilà, tout ça, ce sont des dépenses. Il y a le foot féminin dans lequel l'Union belge investit beaucoup. C'est quelque chose qu'il faut développer, mais pour quel return ? C'est toujours une question.
Et on suivra ça évidemment avec attention. Merci beaucoup Fred.
Avec plaisir.
Grand angle.
Vous avez peut-être déjà poussé la porte d'un magasin discount pour acheter de la poudre à lessiver, des accessoires de jardinage, des objets de déco ou du matériel scolaire. Vous êtes loin d'être le seul. Les enseignes discount non alimentaires comme Kruidvat, Trafic ou Extra ont un succès fou.
Et les résultats de l'enseigne Action, par exemple, frise l'insolence. Son chiffre d'affaires a bondi de 30% l'an dernier et poursuit sur le même rythme effréné cette année. L'inflation dope les ventes, mais elle n'explique pas tout seul ce carton. Ces magasins sont entrés dans les habitudes de la classe moyenne et séduisent les jeunes. Julien Bossler est notre spécialiste consommation. Il décrypte le phénomène à notre micro.
Bonjour Julien.
Bonjour Pierre.
Le dossier du Soir Éco est donc consacré aux magasins discount, aux magasins de crise, ce qu'on appelle le low-end retail. En fait, on entend quoi par cette dénomination ?
Ce sont des magasins qui misent vraiment sur le prix. Alors, on parle évidemment du non-alimentaire ici. C'est l'assortiment de toute une série de produits de grande consommation, mais qui ne se mangent pas, quoique ils en vendent aussi.
Dans le dossier, vous prenez notamment 3 exemples qui sont assez représentatifs, les magasins Action, Trafic et Extra, si on devait les définir en quelques mots.
Ce qui les caractérise, surtout concernant Action, c'est le côté absolument phénoménal de leur succès. Donc déjà avant la crise du Covid et bien sûr avant la crise du pouvoir d'achat, on a vu vraiment ce segment littéralement exploser. Il y a un succès fou dans ce créneau-là.
Ça se voit dans les chiffres, justement, les chiffres que que vous détaillez dans ce dossier du Soir Éco. Tous ces magasins, ils sont en train de connaître une croissance absolument folle. Sur quoi est-ce qu'on peut se baser pour l'affirmer ?
Alors nous ici, nous présentons les chiffres que le bureau d'études GFK nous a livrés et qui concernent exclusivement les produits de grande consommation vendus par ces enseignes-là. On parle des produits lessiviels par exemple, des cosmétiques, éventuellement de tout ce qui est confiserie. On remarque en fait une augmentation de 40% de la croissance de ces magasins en 6 ans à peine. C'est vraiment phénoménal. Il n'y a pas que ça aujourd'hui. Il y a aussi le fait que le taux de pénétration de ces magasins, toujours pour les biens de grande consommation, se situe à 47%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un Belge sur deux se rend au moins une fois par an dans ces magasins pour y effectuer des achats.
Pour y effectuer des achats, de quel type de produit attire le client dans ce genre de magasin ? On l'a dit, c'est du non alimentaire, mais c'est aussi le côté que c'est parfois disponible en très grande quantité pour des prix réduits ?
Typiquement, dans l'assortiment, il y a deux grandes choses. Il y a les biens de grande consommation. C'est là où on va aller trouver, par exemple, des produits lessiviels de fin de stock, de fin de promotion, qui sont sortis de la grande distribution classique et où on peut espérer ressortir du magasin avec son bidon de produits pour le lave-vaisselle ou pour la machine à laver, mais à une fraction du prix de base. Donc là, c'est vraiment déjà un facteur assez différenciant. Et puis, il y a tout le côté assortiment bazar qui tourne autour de la maison. C'est la déco d'intérieur, la déco d'extérieur, toute une gamme d'accessoires qui permettent d'améliorer la vie à la maison.
C'est un des aspects qui peut aussi expliquer le succès de ces magasins. C'est leur côté un petit peu, dans l'article vous parlez de caverne d'Ali Baba, on y va pour acheter un produit bien spécifique, puis en fait on voit un produit B, un produit C, un produit D, on se dit ah mais j'ai aussi besoin de ça, ah mais j'ai aussi envie de ça, et au final on ressort avec plein de trucs qu'on n'avait pas forcément prévu d'acheter.
Oui c'est ça, en fait un des grands moteurs du low end retail c'est l'achat impulsif, c'est le fait qu'on se lâche parce que en fait ce n'est pas cher et donc on peut acheter plein de produits sans trop se faire mal au portefeuille et donc on n'hésite pas, on y va. Ce type d'achat, les consommateurs ont de moins en moins de complexes à les effectuer. On se dit, ben voilà, ce sont finalement des achats assez malins. J'achète des produits qui sont intéressants pour ma vie de tous les jours, mais je les paye vraiment moins cher. Je n'ai pas honte de le dire, je revendique même l'idée d'aller effectuer mes achats non alimentaires dans ces enseignes.
Le prix, c'est ça qui explique cette croissance, qui explique ce succès de ce type de magasin, c'est des tarifs qui défient toute concurrence ?
Oui, le prix, c'est vraiment le moteur numéro un. Je le disais, ça va concerner des gens qui appartiennent à la classe moyenne, qui vont pouvoir repartir du magasin avec toute une série d'achats qu'ils n'auraient peut-être pas fait s'il n'y avait pas eu ce genre de magasin-là. Cela dit, le public prioritaire de ces magasins, ce sont des gens qui n'ont pas forcément les moyens de consommer, tout simplement parce que leur salaire est en dessous du salaire médian en Belgique.
Ça veut dire que le public cible de ces magasins, c'est des gens plutôt précarisés ou en fait ils s'adressent absolument à tout le monde ?
C'est sûr qu'ils s'adressent à tout le monde, mais le public historique, le public de base, effectivement, ce sont des gens qui ont clairement des difficultés à consommer. Mais en fait, la croissance, elle se fait en convaincant justement des personnes de la classe moyenne de venir consommer, de venir acheter.
Ce qui peut expliquer que ces magasins ont été attirés un nouveau public, c'est aussi parce qu'ils ont travaillé sur leur propre image. On prend souvent l'exemple en ce qui concerne le discount alimentaire du magasin Lidl qui a repensé ces magasins pour une expérience client beaucoup plus agréable. Il y a ça aussi avec le discount non alimentaire. On pense à faire construire des magasins un peu plus avenants pour attirer un nouveau public.
Oui, c'est exactement ça. L'idée, c'est qu'on a une marchandise qui est très accessible, pas chère, attirante, renouvelée régulièrement. Là-dessus, on vient rajouter une meilleure expérience client. Un magasin qui est beaucoup plus sympathique et un service qui est censé aussi être de meilleur niveau.
Une question qu'il faut poser quand même, quid de la durabilité de tous ces produits, de la durabilité de ce type de consommation ? On a un peu l'image, produit pas cher, vite acheté, vite jeté.
Alors effectivement, pour le dire poliment, oui, la durabilité, c'est un des grands défis du low-end retail. Si on veut être un petit peu plus cru, effectivement, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la consommation effrénée, sans limite, aux dépens de la planète, exactement comme on le voit pour la fast fashion. Mais donc ce secteur, il sait bien qu'il a des efforts à consentir en la matière et que la marge de progression en termes de durabilité, elle est très importante. Maintenant, ce n'est pas l'unique responsabilité des commerçants. Il y a évidemment aussi l'attitude des consommateurs. Et voilà, il n'y a pas de miracle. La plupart de ces marchandises viennent de loin. Elles sont fabriquées en Chine. Ce n'est pas tellement le transport qui pose un problème, mais ce sont les conditions de production. Il y a aussi le niveau de qualité de ces produits qui fait que, bah, effectivement, on risque de se retrouver avec un parasol en plastique qui va durer une saison, peut-être deux. Il est peut-être plus intelligent, et pour la planète et pour son portefeuille, de mettre un peu plus de sous et d'avoir des objets de qualité qui vont tenir plus longtemps.
Juste pour terminer, en début de podcast, on a parlé de la croissance assez impressionnante que connaissent ces magasins. Elle a une fin prévue, cette croissance? La courbe, elle risquerait de s'inverser dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir?
Tout a une fin. Ici, ça paraît difficile à concevoir parce que justement, dans le commerce actuellement, cette tendance à jouer sur les prix est quelque chose de très fort, mais on commence déjà à voir des signes d'affaiblissement. Bon, d'abord, le marché chez nous est saturé en magasins. Il s'agit, à parc identique, d'attirer encore plus de clientèle. Là aussi, les moyens des Belges sont ce qu'ils sont. À un moment, ben voilà, il y aura effectivement des limites. Et d'ailleurs, du côté d'Action, qui est le leader du marché, on perçoit déjà des signes d'affaiblissement, d'abord sur le marché historique aux Pays-Bas, et puis chez nous aussi. Les affaires vont très bien pour eux, rassurons les gens qui aiment Action, mais on voit que la croissance ne se fait plus spécifiquement ici, mais dans des pays un petit peu plus lointains.
Merci beaucoup Julien.
Merci Pierre.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain matin.
Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à parler de notre podcast et à partager nos épisodes autour de vous.
À demain.